Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du mercredi 15 mai 2024 dont voici d'abord les principaux titres. En RDC, 11 morts dans une attaque présumée des rebelles ADF affiliés à l'État islamique en Ituri. Exploration des blocs pétroliers en RDC, un expert décrypte les défis freinant les avancées.
Mais le grand problème se situe au niveau de l'évacuation. Aujourd'hui, la RDC ne raffine pas de pétrole et nous avons du pétrole dans cette partie est. Mais une fois que le pétrole est découvert et extrait, nous ne savons pas par où nous devons l'évacuer.
Nouvelle plainte des avocats des Bongo à Paris, dénonciation d'arrestation arbitraire et de séquestration. La résistance des cacao-culteurs ivoiriens à la norme européenne du cacao durable, un défi pour écouler leurs produits.
Forcément, les mesures sont en train d'être prises pour faire en sorte que la culture du cacao n'impacte pas négativement l'environnement. Mais évidemment, la Côte d'Ivoire est un pays qui repose sur la culture du cacao et ce changement-là ne peut pas se faire de manière brusque.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden justifie l'augmentation des droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Les États-Unis exhortent la Géorgie à réorienter sa politique après l'adoption d'une loi sur l'influence étrangère. Il n'en manque pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, mais pour l'instant le journal. En RDC, une récente attaque attribuée aux rebelles ADF affiliés au groupe État islamique a entraîné la mort d'au moins 11 personnes en Ituri, une province située dans le nord-est du pays. Eddy Issango.
Les corps de 6 femmes, un enfant et 4 hommes ont été retrouvés hier en Dimo dans la chefferie de Waliso-Vonkuntu dans les territoires d'Irumu après l'attaque qu'ont menée la veille les rebelles ADF. Le président de la société civile du lieu, Dieudonné Malangaï, rapporte que les victimes ont été tuées par balles et à la machette. L'entourage de l'administrateur du territoire ainsi que les porte-parole de l'armée à Ituri confirment l'attaque et le bilan. Les rebelles ont attaqué Ndimo alors que les armées congolaises ou ougandaises mènent depuis 2021 des patrouilles conjointes dans la zone. Ils sont intervenus, mais bien en retard, témoigne M. Malangaï. 8 autres personnes ont également été tuées mercredi dernier par les ADF, mais cette fois-là dans la province du Nord Kivu. Ces rebelles, à l'origine ougandais et majoritairement musulmans, sont implantés depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC, où ils ont tué des milliers de civils et multiplié ces dernières semaines les attaques des villages, des voyageurs et des centres de santé le plus souvent pillés. Ils ont prêté allégeance à Daesh en 2019.
Un tribunal rwandais a rejeté mardi l'appel d'une figure de l'opposition qui réclamait l'annulation de ses condamnations antérieures, ce qui le disqualifie de l'élection présidentielle de juillet. Bernard Ntaganda, 55 ans, a demandé en février à la haute cour de Kigali d'annuler des condamnations remontant à plus d'une décennie. Or, en vertu de la loi rwandaise, une personne condamnée à plus de 6 mois de prison ne peut exercer de fonction publique. M. Ntaganda avait tenté de se présenter à la présidentielle en 2010, mais avait été arrêté avant le vote. Les avocats de la famille Bongo, ancienne famille dirigeante du Gabon, ont déclaré mardi avoir déposé une nouvelle plainte à Paris pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'arrestation et de séquestration arbitraire de plusieurs membres de cette famille. Ils ont également affirmé que l'ancien président Ali Bongo Ondimba avait entamé une grève de la faim. Mohamedou Onfa.
À quelques jours de la visite à Paris du dirigeant de la transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, Maître François Zimré et Catalina de la Sota ont rendu public un communiqué annonçant leur dépôt d'une plainte avec constitution de parti à Paris. La plainte dénonce une arrestation illégale, la séquestration aggravée par des actes de torture et les actes de barbarie commis à l'encontre d'Ali Bongo Ondimba, de Sylvie Bongo et de leur fils Noureddine, Jalil et Bilal, les 4 premiers étant présentés comme ressortissants français. Cette procédure vise à obtenir la désignation d'un juge d'instruction en France pour enquêter sur ces accusations. D'après les conseils, Noureddine Bongo a été torturé à plusieurs reprises, battu, fouetté ou encore électrocuté au taser. Sylvia Bongo, contrainte d'assister aux tortures, a également été battue dans le cadre d'une dépossession sans limite des biens de la famille. Face à ces traitements, l'ancien président Ali Bongo Ondimba et ses fils Jalil et Bilal entrent en grève de la faim, affirment les avocats. Pour Maître François Zimré, les responsables de ces agissements auront à rendre compte devant la justice française. Il s'agit là d'atteinte à la personne humaine dont les auteurs encourent une peine de réclusion criminelle pouvant être portée à la perpétuité selon lui.
Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé mardi la tenue les 25-26 mai d'assises nationales pour décider de la suite de la transition dont la durée impartie par la charte du 14 octobre 2022 court jusqu'au 1er juillet 2024. Les assises de mai réuniront des représentants de la société civile, des partis politiques, des forces de défense et de sécurité, a précisé le ministre de l'administration territoriale. Le fin avril, l'Assemblée législative de transition avait adopté une loi portant sur la convocation d'assises nationales. En moins de trois semaines des législatives du 29 mai, l'insécurité est l'une des préoccupations majeures des Sud-Africains avec un chômage endémique, près de 33%, et la corruption. Dans un bidonville à l'ouest de Johannesburg, le crime organisé lié aux gangs contrôlant l'exploitation minière clandestine explose. Il y a quelques mois, le ministre de la Police s'est rendu sur place après la découverte de plusieurs corps promettant de s'attaquer à l'insécurité. L'Afrique du Sud connaît l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde et l'opposition à l'approche des législatives reproche cette faillite majeure à l'ANC au pouvoir. Plus de 7 millions d'habitants du Soudan du Sud risquent de souffrir d'insécurité alimentaire aiguë d'ici juillet, dont 79 000 à un niveau catastrophique, équivalent à la famine, a mis en garde l'ONU mardi. Le plan de réponse humanitaire de l'ONU pour le Soudan du Sud pour 2024, chiffré à 1,8 milliard de dollars, n'est financé pour l'instant qu'à 11%.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden a déclaré que la Chine utilise des pratiques déloyales, mais que les États-Unis ne resteront pas passifs face à l'afflux de produits chinois sur leur marché. Il a ainsi justifié la décision de quadrupler les droits de douane sur les véhicules électriques chinois, annoncé plus tôt dans la journée. Jacques Aristide.
Nous ne laisserons jamais la Chine contrôler le marché pour ce type de véhicule, a déclaré le locataire de la Maison Blanche. Pour Joe Biden, il est impossible pour les constructeurs automobiles américains de concurrencer Pékin honnêtement. Washington a fait état d'une forte hausse des droits de douane pour les véhicules électriques qui passent de 25 à 100% parmi une liste d'augmentations concernant plusieurs autres secteurs considérés comme stratégiques, au premier rang desquels les semi-conducteurs ou les batteries. Une décision qui affectera gravement l'atmosphère de la coopération bilatérale, a aussitôt réagi le ministère chinois du Commerce, appelant les États-Unis à revenir immédiatement sur leurs actions erronées et à annuler les mesures tarifaires supplémentaires contre la Chine. Washington accuse Pékin de soutenir fortement ses industries avec d'importantes subventions, entraînant une surproduction écoulée à prix cassé par les entreprises chinoises sur le marché mondial, empêchant le développement d'industries concurrentes dans d'autres pays. Une crainte partagée par l'Union européenne et d'autres pays tels que la Turquie, le Brésil ou l'Inde, a souligné un responsable américain.
Les États-Unis exhortent la Géorgie à changer son cap après avoir adopté hier une loi controversée sur l'influence étrangère dans ce pays du Caucase. Selon les organisations de la société civile et les défenseurs des droits humains, cette loi constitue une tentative de museler la dissidence et de limiter la liberté d'expression. Nanit Talani.
Nous estimons que le gouvernement géorgien doit changer de trajectoire par rapport à celle qu'il suit actuellement, a déclaré le porte-parole du département d'État, Vedant Patel, lors d'un point de presse hier. Selon lui, les États-Unis soutiennent l'aspiration de la Géorgie à rejoindre l'Union européenne, mais des initiatives comme cette législation sont incompatibles avec cet objectif affiché. Nous aimerions continuer à approfondir la collaboration que nous avons avec la Géorgie et il reste du temps pour travailler ensemble, a ajouté le porte-parole. Les députés géorgiens ont adopté mardi un texte controversé sur l'influence étrangère, malgré des manifestations contre cette loi qui doit imposer à toute ONG ou média recevant plus de 20% de son financement de l'étranger de s'enregistrer en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce matin par Nanit Talani.
La RDC a levé une ordonnance de suspension visant une exploitation congolaise de cuivre et de cobalt détenue majoritairement par la société chinoise Zijin Mining Group, à condition que cette société veille scrupuleusement à ce que les niveaux de rayonnement restent conformes aux normes nationales et internationales, indique Reuters. Le ministère congolais des Mines dit avoir reçu un rapport sur les conclusions de l'enquête sur les produits minéraux renvoyés d'Afrique du Sud en raison de niveaux de radiation trop élevés. Des pannes imprévues chez les principaux producteurs indépendants d'électricité de Côte d'Ivoire ont réduit l'approvisionnement en électricité disponible de 22% avec des délestages attendus pour le reste de l'année. Selon la CGSCI, la crise de l'approvisionnement en courant a déjà causé une perte d'au moins 8 millions de dollars au secteur minier, sans compter le cacao. Pour terminer, le trafic illégal d'espèces sauvages animales et la faune reste un problème persistant et il est crucial que les gouvernements ne se concentrent pas uniquement sur les espèces emblématiques telles que les éléphants, dans lesquelles des progrès ont été réalisés, indique un rapport de l'ONU publié lundi. Entre 2015 et 2021, les saisies de 13 millions d'articles ont révélé un commerce illégal d'environ 4 000 espèces de plantes et d'animaux dans 162 pays et territoires, selon le rapport.
Et sans transition, nous passons directement à votre page d'espoir avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Kylian Mbappé va signer au Real Madrid pour 5 saisons.
Oui, l'annonce est faite par le président de la Ligue de football espagnol, Javier Tebas. Kylian Mbappé a officialisé vendredi soir son départ du club parisien à la fin de la saison qui s'achève. Il n'a pas dévoilé en revanche sa destination. Il vient à Madrid la saison prochaine, a déclaré Tebas dans une interview publiée mardi par le quotidien sportif argentin Olé. Le patron de la Liga précise même que le Real et l'attaquant français, qui est âgé de 25 ans, se sont entendus sur un contrat de 5 ans. Rien n'a encore été officialisé du côté de l'avant-centre superstar de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, comme du côté de Madrid.
Le Los Angeles FC officialise l'arrivée d'Olivier Giroud ici en MLS.
Le Los Angeles FC a annoncé l'arrivée prochaine du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en fin de contrat avec l'AC Milan. Olivier Giroud va retrouver en Californie l'ex-gardien des Bleus Hugo Lloris. Ce que nous avons vu en Olivier, c'est une combinaison rare dans sa capacité à décrocher, à donner du liant au jeu et à être un finisseur, a commenté auprès de l'AFP John Torrington, directeur général de Los Angeles FC. Le dirigeant californien a insisté sur l'apport d'Olivier Giroud en dehors du terrain. C'est vraiment un gros coup pour le club, s'est-il félicité.
Et avant de nous quitter, Yakuba, Lama réclame la libération immédiate du chef de l'Agence nationale antidopage de la Tunisie.
L'Agence mondiale antidopage dit exprimer sa préoccupation profonde après l'annonce de l'arrestation en Tunisie du chef de l'Agence nationale antidopage, réclamant sa libération immédiate et inconditionnelle. Le directeur général de l'ANAD, Mourad Ambli, et le président de la Fédération tunisienne de natation ont été entendus lundi, puis placés sous mandat de dépôt lors des Tunisians Open Masters, une compétition de natation réunissant une vingtaine de pays organisée à la piscine olympique de Rades. Le drapeau national a été caché par un tissu afin de se conformer à des sanctions prises fin avril par l'AMA contre la Tunisie pour non-conformité au Code mondial antidopage. Dans cette affaire, 9 personnes, dont les 2 dirigeants sportifs, sont poursuivies pour atteinte au drapeau de la Tunisie, complot contre la sûreté intérieure de l'État, selon le parquet de Benarous.
La page des sports signée Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. 2 ans après les appels d'offres de la RDC à des investisseurs pour ses blocs pétroliers, Il semblait que très peu de progrès aient été réalisés. Quelles sont les raisons de cet enlisement? Pour répondre à cette question, Eddie Isango a contacté Cédric Manwana, un ingénieur en géophysique appliqué, spécialiste de l'exploration pétrolière basé à Dallas, au Texas.
Le constat que nous faisons actuellement est que, depuis le lancement officiel des appels d'offres sur les blocs pétroliers et gaziers de la RDC, initiés en date du 28 et 29 juillet 2022, jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse par rapport aux sociétés pétrolières qui ont répondu présent à ce rendez-vous.
Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi les gens ne viennent pas?
À l'est, nous avons des blocs pétroliers de la branche ouest du rift est africain, qui a été subdivisé en 11 blocs pour le graben Tanganyika et 4 blocs pour le graben Albertine. Ces blocs ont démontré toutes les potentialités pétrolières parce que l'histoire géologique de la zone nous atteste qu'il y a la présence d'un système pétrolier fonctionnel et certains travaux ont été effectués. Mais nous devons savoir que les compagnies pétrolières sont premièrement attirées par les blocs pétroliers que s'ils possèdent des données. Et c'est le cas dans la branche ouest du rift est africain, mais le grand problème se situe au niveau de l'évacuation. Aujourd'hui, la RDC ne raffine pas de pétrole et nous avons du pétrole dans cette partie est, mais une fois que le pétrole est découvert et extrait, nous ne savons pas par où nous devons l'évacuer. Raison pour laquelle, lorsque le gouvernement a initié ses appels d'offres sur ces blocs pétroliers, il n'a pas tenu compte du lieu d'évacuation. Parce que, par exemple, les blocs du graben Albertine que nous partageons avec l'Ouganda, aujourd'hui, l'Ouganda n'est pas favorable pour que le pétrole puisse être évacué du côté de l'Ouganda parce qu'il y a un projet entre l'Ouganda et le groupe Total d'installer un pipeline qui passera par l'Ouganda, la Tanzanie, pour se retrouver au niveau de l'océan Indien, pour aller en fait à différentes raffineries de par le monde.
Vous avez parlé du lac Albert avec l'Ouganda qui déjà exploite le pétrole de la même nappe que la RDC.
Oui, c'est un problème. C'est-à-dire que l'Ouganda aujourd'hui, la roche réservoir qui contient les hydrocarbures a une épaisseur de 3 km, tandis que du côté de la RDC, nous avons 6 km d'épaisseur. Donc aujourd'hui, logiquement, la crainte est qu'un jour, l'Ouganda puisse effectuer des forages déviés et puiser le pétrole dans le sous-sol congolais sans que la République, sans que les autorités puissent s'en rendre compte.
Ça, c'est l'obstacle, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Il faut déjà revoir le code des hydrocarbures qui n'est pas attractif pour les investisseurs. Il faut revoir le budget alloué au secteur des hydrocarbures pour que le gouvernement ou bien le pays puisse effectuer des travaux. Mais aussi, il faut qu'il y ait une main d'œuvre qualifiée. C'est-à-dire, lorsque nous préparons les appels d'offres, ce que nous devons présenter aux investisseurs doit avoir une attention particulière des spécialistes. Là, nous pourrons attirer les investisseurs. Nous pourrons avoir une présentation des blocs pétroliers qui seront attractifs.
Cédric Manwana, ingénieur en géophysique appliqué, expert en exploration du pétrole.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan sur la victoire contestée du général Mahamat Idriss Déby Itno à la récente présidentielle au Tchad. Une partie de la communauté internationale s'inquiète de violences post-électorales alors que le premier ministre Succé Masra, arrivé deuxième, réclame l'annulation pure et simple de ce qu'il qualifie de mascarade électorale. Pourquoi cette élection suscite-t-elle des interrogations? Quels sont les défis qui attendent le président élu? Laissez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
La norme cacao durable lancée en 2021 en Côte d'Ivoire peine à être largement adoptée par les cacaoculteurs locaux malgré son importance. Cette exigence de l'Union européenne pour le respect de cette certification entrave la commercialisation des produits. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Bijou Nemegno.
Nous sommes à San Pedro, ville du sud-est de la Côte d'Ivoire. Cette coopérative de cacao implantée aux abords de la ville avait démarré ses activités de commerce sans certification. Cela a eu pour effet de freiner la commercialisation du cacao vers l'Europe. Un an après être certifié, la commercialisation se passe plutôt bien. Abdoulaye Ouattara, administrateur de la coopérative Ecofas.
Il faut apprendre aux producteurs comment il faut faire les bonnes pratiques agricoles, accepter de planter les arbres, puisqu'il y a un changement climatique. Voilà, c'est le fait de détruire les gros arbres pendant le défrichement. Donc du coup, comme il y a un vide dans les différentes plantations, avec l'arrivée de la certification, nous donnons les plans d'arbres d'ombrage aux producteurs pour pouvoir combler le vide d'arbres d'ombrage dans les différentes plantations. Les anciennes pratiques ont changé.
Et qui dit anciennes pratiques dit déforestation, travail des enfants ou encore non-amélioration des conditions de travail des producteurs. L'Union européenne est claire sur la question. Tout producteur de cacao qui ne suit pas ces normes ne pourra pas vendre son produit aux pays européens. Ambroise Fayol, vice-président de la Banque européenne d'investissement.
La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et par ailleurs, le premier exportateur de cacao en Europe, c'est la Côte d'Ivoire. Donc il y a une sensibilité particulière à la Côte d'Ivoire, mais il n'y a aucune raison qu'à partir du moment où les nouvelles règles européennes s'imposent à tous les producteurs de cacao, et donc il va falloir que tous s'adaptent.
Depuis son lancement en juillet 2021, la norme cacao durable n'a pas encore fait l'objet d'une réelle implémentation. Les mesures pour arriver à son adoption sont en cours, mais beaucoup de producteurs se plaignent de la lenteur du processus. Pour certains spécialistes du domaine, ce n'est qu'une question de temps. Moutiou Adibi Nourou, journaliste économique.
Il y a quelques années, lors d'une interview, le président Ouattara expliquait que la Côte d'Ivoire ne refusait pas, la Côte d'Ivoire n'est pas contre la promotion du label vert, du label écolo. Donc forcément, les mesures sont en train d'être prises pour faire en sorte que la culture du cacao n'impacte pas négativement l'environnement. Mais évidemment, la Côte d'Ivoire est un pays qui repose sur la culture du cacao et ce changement-là ne peut pas se faire de manière brusque.
La Côte d'Ivoire est mise sous pression par l'Union européenne qui représente plus de 67% de ses exportations. La série de mesures en cours d'application depuis 2021 prévoit de n'autoriser l'entrée sur le marché européen que des produits dont la chaîne d'approvisionnement respecte des critères préétablis comme la lutte contre la déforestation, l'amélioration des revenus des producteurs et la lutte contre le travail des enfants dans les plantations. Ange Bijou Nomeyon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
À l'approche des élections générales en Afrique du Sud, la population exprime sa frustration croissante face à la pénurie d'eau. À Durban, l'accès à l'eau courante et potable devient de plus en plus difficile, exacerbant les tensions. Selon un rapport ministériel de décembre 2023, les deux tiers des stations de traitement des eaux ne fonctionnent plus correctement. Asma Botmi-Clark nous amène au cœur de cette crise qui pourrait influencer le vote des citoyens.
Sam Kello, Annelé et les autres sont heureux. Aujourd'hui, le camion citerne livrant de l'eau est passé un peu plus tôt.
Nous avons dû attendre longtemps. Que comptez-vous faire avec l'eau? Nous allons laver nos uniformes.
Laver le linge ou simplement faire sa toilette sont des luxes dans cette communauté rurale située à 30 minutes de Durban. Osindi Sweni est un village où l'eau courante n'est plus présente depuis des années. Les habitants, comme Nosise Laura Debe, souffrent de cette situation, mais espèrent que l'annonce que vient faire le ministre provincial de l'eau et de l'assainissement changera leurs difficiles conditions de vie.
Cela fait de nombreuses années que nous n'avons pas d'eau car nous sommes approvisionnés par des camions citernes. Pour nous, c'est une grande bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir ces projets.
Et le projet dont elle parle, c'est la rénovation de cette station d'épuration d'eau qui aurait déjà dû être terminée si le contrat avec l'entreprise en charge n'avait pas été rompu.
Espérons que l'entrepreneur reste là, car s'il n'y avait pas eu de rupture avec l'entrepreneur précédent, je suis sûr que nous aurions livré maintenant.
Et c'est bien là où réside le problème du manque d'eau à Durban et dans le reste du pays. Des contrats de réparation non terminés ou bâclés, des sabotages à répétition causés par ceux dont ce n'est pas l'intérêt de voir l'eau courante rétablie, une crise qui s'intensifie et s'étend aux quartiers aisés.
Les gens en ont assez, ils disent qu'ils payent pour un service qu'ils ne reçoivent pas. Il y a eu des menaces de ne plus payer les charges. Les associations de contribuables se multiplient car elles croient que les élus locaux sont ignorés par le parti au pouvoir et les fonctionnaires qui travaillent pour eux et sous leurs autorités.
Suscitant la colère de la population, la crise de l'eau pourrait cette année faire pencher la balance dans les bureaux de vote. Asma Botny-Clark pour VOA Afrique, Durban.
Alors que la Russie a avancé dans le nord de l'Ukraine cette semaine, la course à la présidence des États-Unis entre Joe Biden et l'ancien président Donald Trump s'est recentrée sur une autre crise en politique étrangère, le conflit à Gaza. Comme le rapporte la correspondante de la VOA au Congrès, Catherine Gibson, maintenir l'attention des Américains sur l'Ukraine pourrait s'avérer difficile. Yacouba Ouedraogo pour le récit.
La ville frontalière de Vovchansk, dans le nord de l'Ukraine, évacuée quelques heures avant la prise de la cité revendiquée par la Russie. L'Ukraine riposte grâce à l'aide de plus de 50 milliards de dollars des États-Unis, approuvée le mois dernier par le président Joe Biden. Depuis des mois, le chef de l'exécutif américain affirme que l'aide à l'Ukraine est une pièce maîtresse de la politique de sécurité nationale des États-Unis.
Si les États-Unis se retirent maintenant, l'Ukraine sera en danger, l'Europe sera en danger, le monde libre sera en danger, ce qui va revigorer ceux qui veulent nous faire du mal. Mon message au président Poutine, que je connais depuis longtemps, est simple. Nous ne nous dérobons pas.
Mais les analystes soulignent que l'élection présidentielle tourne rarement autour des questions de politique étrangère. James Tauber, professeur à l'American University.
La question de l'Ukraine apparaît à peine dans les sondages et sur la politique étrangère. Moins de 5% des gens pensent que c'est une question importante. La politique étrangère, en général, ce sont les relations que nous entretenons avec la Chine, le Parti communiste chinois, mais aussi le fait de s'opposer à Poutine et à ce qui se passe à Gaza.
Le candidat républicain présumé à l'élection présidentielle, Donald Trump, a affirmé que les États-Unis envoyaient déjà trop d'aide. Au début de l'année, l'ancien président a laissé entendre qu'il n'adhérerait pas au pacte d'autodéfense mutuelle si la Russie envahissait un pays de l'OTAN.
Je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent.
Ce message trouve un écho auprès des électeurs préoccupés par l'engagement américain à l'étranger. Selon Barbara Perry, professeure à l'Université de Virginie.
Les 20 ans de guerre contre le terrorisme et les guerres soi-disant sans fin ont probablement converti plus d'Américains à l'isolationnisme et à l'Amérique d'abord. Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump a eu du succès en 2016. Et c'est pourquoi il a réussi à obtenir de manière quasi officielle l'investiture du Parti républicain en 2024.
L'opposition au financement de la défense de l'Ukraine contre la Russie a mis certains républicains dans une position difficile en cette année électorale. Mais après des mois d'atermoiement, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, un partisan de Trump, a fait voter l'aide avec succès.
Je préfère envoyer des balles en Ukraine plutôt que des jeunes Américains.
Alors que des manifestations contre la guerre à Gaza se déroulent sur les campus universitaires des États-Unis, les analystes estiment que la manière dont l'aide américaine est dépensée à l'étranger est un sujet de discussion pendant la saison électorale. Barbara Perry de nouveau.
Je connais un certain nombre de jeunes électeurs dans ce pays qui réfléchissent attentivement à leur dette d'études, par exemple. Vous savez, pourquoi dépensons-nous ces milliards et ces milliards de dollars en envoyant des armements à l'étranger, en Ukraine et en Israël? Pourquoi n'utilisons-nous pas cet argent au niveau national pour d'autres problèmes dont il faut s'occuper dans ce pays?
L'aide à l'Ukraine approuvée par le Congrès en avril sera probablement le dernier versement de l'année avant l'élection présidentielle de novembre.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Eric Manilakiza, ce micro avec la complicité technique de Michel Claire-Joseph et Nachwan Kale à la console. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes sur VOA Afrique et sur toutes nos plateformes digitales.